Merci Caroline, merci François. On va donc passer au troisième et dernier temps de la soirée avec le deuxième débat, si vous êtes encore dispo. C'est vrai que c'est une longue soirée. Donc je vais appeler Camille Saint-Jacques et les intervenants, donc Florence de Merdieu et Alice Fernet, ainsi que Pierre Buraglio, qu'on a entendu tout à l'heure pendant le débat. Bonjour Florence. Et donc, je vais laisser la parole à Camille. Donc, pour ce débat qui aura pour thème, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, l'art et la guerre. Donc, au sens assez large, ça aurait pu s'appeler la création artistique et la guerre, et surtout l'intimité aussi et la guerre, le rapport que chaque artiste a pu avoir avec ce phénomène de société qu'on vient d'analyser ou d'essayer de décrire. Donc, je vais laisser la parole à Camille qui va nous présenter un petit peu les intervenants et lancer le débat. Bonne fin de soirée.
Alors, bon, bonsoir. On s'est déjà vu, je crois. Je vais rapidement commencer ce troisième et dernier moment de la soirée. Donc, je présenterai Florence de Merdieu, qui va commencer par nous parler d'Artaud dans la guerre, un ouvrage récent qu'elle a publié. Pierre Buraglio, qui est à ma droite, qui est peintre et qui va nous parler de l'image picturale. Et Alice Fernet, à ma gauche, qui nous parlera d'un roman intitulé « Dans la guerre ». Voilà. Donc, on commence, si vous voulez bien, tout de suite avec vous, sur Artaud. Et je vous donne la parole. Vous prenez un micro. Je voudrais garder un petit peu de temps pour le débat à la fin de la soirée, donc c'est la raison pour laquelle on se précipite un peu.
Voilà. Alors, donc, je vais essentiellement parler d'Antonin Artaud et je dirais autour d'Antonin Artaud. Alors, c'est un auteur que j'ai abordé bien des fois et depuis très longtemps, mais en fin de compte, à un certain moment, je me suis mis à travailler sur le thème de la guerre de 1914. Et ce que j'ai découvert m'a évidemment énormément à la fois stupéfiée et absolument passionnée. C'est-à-dire que je me suis plongée dans la guerre de 14, dans la psychiatrie essentiellement de la guerre de 1914, en travaillant sur des archives. Et donc ce que j'ai découvert est proprement assez stupéfiant. Alors je vais aussi vous parler dans la foulée un tout petit peu d'André Masson et de Céline, puisque les thèmes que vous m'avez demandé de traiter de manière privilégiée, parce que le livre, évidemment, traite de beaucoup d'autres choses, c'est finalement le thème de l'errance et puis le thème de la guerre continuée. Et alors, les deux questions que vous m'avez demandé de poser, ou de partir, si vous voulez, à partir de ces questions, c'est d'une part, comment créer après la guerre, et deuxièmement, comment créer à partir de la guerre. Alors, c'est une question évidemment qui est très large, hein, énorme, comment créer après la guerre. Il est bien évident qu'il y a deux positions et deux solutions privilégiées. Il y a d'une part ceux qui ont vécu la guerre, comme effectivement Antonin Artaud, comme Céline, comme André Masson, comme aussi, puisque ce personnage apparaît aussi dans mon livre, Hitler, hein, qui était sur les mêmes champs de bataille à l'époque que Artaud, que Masson et que Céline. Bon, et puis il y a ceux qui viennent créer et qui sont nés longtemps après la guerre, ou si vous voulez, qui n'ont effectivement pas vécu cette guerre. Donc, dans les deux cas, c'est excessivement différent. Alors, la deuxième question, créer à partir de la guerre. Alors là, je crois que cette notion de créer à partir de la guerre, c'est surtout valable pour ceux précisément qui ne l'ont pas vécu. Dans le cas d'Artaud, dans le cas de Céline, d'André Masson, etc., ils ont créé non pas à partir de la guerre, mais dans la guerre. On va voir d'ailleurs qu'il s'agit d'une guerre qui ne s'est jamais arrêtée pour eux. Ils créent dans la guerre et ils créent avec une guerre qui est à l'intérieur d'eux-mêmes et dont ils ne peuvent absolument pas se défaire et de se détacher, de manière souvent d'ailleurs tout à fait inconsciente. Moi, j'étais très étonnée de l'impact en particulier de la guerre de 1914 sur Antonin Artaud, que je n'avais jamais véritablement décelé auparavant, hein, même si je connaissais un certain nombre de faits, tout simplement parce que chez Artaud, pendant très 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 longtemps, ça a été souterrain, enfoui et refoulé. un refoulé à un point énorme. Et en fin de compte, la guerre, elle ressurgit vraiment dans le cas d'Antonin Artaud, à partir du moment où à Rodez, hein, et un petit peu avant aussi, il subit ses électrochocs. Parce qu'il y a un retour du refoulé, et à ce moment-là, pendant la guerre de 1939-1945, qu'est-ce que vit Antonin Artaud? Qu'est-ce qu'il dessine? De quoi est-ce qu'il parle? C'est essentiellement de la guerre qui revient, des bribes qui reviennent de la guerre de 1914-1918. Il a été enrôlé, enfin, peu de temps, mais en 1916, et donc c'est tout cela qui revient. Les canons, par exemple, qu'il dessine, ce ne sont pas du tout les canons de la guerre de 1939-1945, mais ce sont les vieux canons qu'on trouve dans l'illustration de la guerre de 1914. Donc ça, c'est très étonnant. Alors, les deux thèmes ensuite de l'errance et de la guerre continuée. Alors, le thème de l'errance, c'est un thème qui apparaît de manière absolument privilégiée chez Céline. Vous savez que Céline, Louis-Ferdinand Céline, donc, s'est engagé d'ailleurs de manière anticipée. Hein, avant même la guerre, il s'engage dans un corps de cuirassiers. Il va faire la guerre de 14 très peu de temps, hein, quelques mois, puisqu'il est blessé. Et donc, il va travailler comme. Enfin, il va d'abord connaître les hôpitaux militaires. Et ensuite, il va travailler comme auxiliaire, en particulier à Londres et puis aussi en Afrique. Mais d'Afrique, justement, à Simone Saintu, une de ses amies, il écrit que, en fin de compte, la manière dont il a vécu la guerre, ça l'a complètement, si vous voulez, déraciné, explosé. Et que par la suite, après la guerre, hein, qu'il envisage dès 1916, il dit « il n'y aura plus qu'une armée d'errants ». Ce thème de l'errance, ce sont ces individus qui, en fin de compte, ont vécu des choses à ce point terribles qu'ils ne peuvent plus véritablement être insérés dans la société. Et alors, ces errants, bon, il y aura en particulier Céline, Céline qui sera un grand errant. Alors bon, je ne vais pas parler de Céline de manière détaillée aujourd'hui, mais en fin de compte, le thème de l'errance est très important. Mais il y a aussi Antonin Artaud. Alors ça, c'est assez étonnant parce que Antonin Artaud, il a une histoire singulière pendant la guerre de 14-18. Donc il est enrôlé en 1916. Il reste quelques mois, on sait, à l'infirmerie de Digne. Il a probablement, je dis bien probablement, parce qu'il y a des murs qui font, enfin, les murs, si vous voulez, du secret médical qui font qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, il a probablement, à mon avis, été au front très peu de temps, puis très vite réformé pour nervosisme, somnambulisme. Alors, on ne sait pas si ça a été théâtralisé, si ça a été simulé ou si c'était des troubles réels. Et à la suite de ça, il va être plusieurs fois, si vous voulez, ajourné, réformé, etc. Et il va passer la guerre de 14-18 essentiellement dans des maisons de santé. Des maisons de santé à forte dominante, malgré tout, on va dire psychiatrique, qui vont. Alors, il passera 5 ans en maison de santé à l'époque, et ça va le marquer de manière définitive. Et c'est à ce moment-là qu'il aborde et qu'il commence précisément sa carrière d'errant. Il va de maison de santé en maison de santé, il revient un petit peu dans sa famille, il repart, il fait toute une série de maisons de santé de cette façon, et par la suite, il aura une vie totalement errante jusqu'à ce qu'il soit en quelque sorte fixé dans les asiles psychiatriques où à la fin de sa vie, il passera 9 années. Mais là encore, il y aura de l'errance puisqu'il passera d'un hôpital à l'autre et il dira comme un espèce de baluchon qui n'a pas la parole. Il dira toujours qu'il n'a pas la parole, ça c'est quelque chose de très important, puisque c'est le numéro matricule de l'asile qui remplacera l'ancien numéro matricule, évidemment, de militaire qu'il avait reçu à Marseille. Voilà, alors ça c'est le cas d'Antonin Artaud, sur lequel, bon, évidemment, j'ai beaucoup insisté, puisque c'est le cœur de mon sujet. Et alors, je voudrais aussi parler un petit peu de Louis-Ferdinand Céline, d'André Masson. Céline, je viens d'en parler, donc d'André Masson. Alors, André Masson, il a été blessé sur le champ de bataille et il a raconté comment il était resté le dos face à la mitraille sans pouvoir bouger pendant toute une nuit. Et il a été secouru ensuite et il a raconté plus tard que ça avait été à la fois quelque chose d'horrible, puisqu'il était cloué et il y avait la mitraille qui tombait sur lui, les obus, et en même temps une espèce de fête extraordinaire D'abord parce qu'il était dans un état semi-second, et ensuite parce qu'il y avait toutes les couleurs d'artifice, tout ce que certains peintres justement ont représenté, hein, ces espèces de faisceaux lumineux, ce feu d'artifice. Et alors ces faisceaux lumineux, ces feux d'artifice, cette espèce d'explosion fondamentale, d'explosion d'énergie, ça va revenir assez tôt finalement chez André Masson, puisque en 1923, il va commencer ce qu'il appelle le dessin automatique. Hein, vous savez que les dessins automatiques, c'est quelque chose de très particulier. Il n'y a guère que Masson qui en est fait, hein, véritablement. Ça a duré peu de temps. En 27, c'est terminé. Il a d'ailleurs dit que c'était un espèce de feu de neige. Et en fin de compte, tout se passe comme si cette espèce de trauma fondamental, si vous voulez, qu'il avait connu sur le champ de bataille, tout d'un coup, il se dévide. Un trauma, c'est un espèce de nœud, de conglomérat, de grumeaux d'énergie qui est complètement concentré et dont on ne peut pas se défaire. Et le dessin automatique va lui permettre, en quelque sorte, de libérer cette énergie, hein, puisque vous savez que le dessin automatique, c'est quelque chose qui se produit de manière ultra rapide. Il y a une espèce de vitesse fondamentale. Bon, d'un seul trait, d'un seul coup, hein, le dessin automatique. Bon, et je crois que c'est la période sans doute la plus importante de Masson et qui va dominer et déterminer tout ce qui viendra après. C'est aussi d'une certaine manière ce qu'on peut considérer comme étant à la source de l'action painting qui va venir après, beaucoup plus tard, de Pollock, etc. Cette espèce d'énergie fondamentale qui ressort de manière très brute, hein, et très vitale. Bon, donc ça, vous voyez, comment créer... à partir du moment où on a été dans la guerre, où la guerre, elle nous habite toujours. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. D'ailleurs, Masson, au moment de la guerre de 39-45, il racontera aussi à certains intervieweurs, il expliquera qu'à la suite de la guerre, il avait connu des troubles psychiques importants, qu'à l'hôpital où on soignait, il avait dit qu'il ne voulait absolument pas retourner à la guerre. Il a dit « j'ai vu comment c'était, je ne veux pas y retourner ». Et il explique, tout le monde à l'époque riait, les infirmières, ses compagnons de chambre, etc. Mais il dit, il y en a un seul qui ne riait pas du tout, hein, c'était le major militaire qui l'a fait interner. Bon. Et alors ça me permet de parler rapidement de quelque chose d'important, c'est-à-dire que pendant la guerre de 14-18, les blessés psychiques, en fin de compte, il s'agissait pour les psychiatres très très vite de savoir et d'essayer de déterminer s'il s'agissait de simulation ou pas, de traiter de manière violente, hein, très violente, ces phénomènes de simulation ou supposées simulations, pour très très vite les renvoyer au front. Hein. Le but, c'était véritablement traiter le soldat, y compris aussi quand c'était physique avec des prothèses. Hein. Bon, ça, j'ai beaucoup travaillé aussi sur le problème de la prothèse, parce que c'est quelque chose d'absolument... fondamentale. À l'époque, il s'agit que les mutilés deviennent des espèces de porte-outils. Donc, on leur fabrique des prothèses qui leur permettent de tenir des outils, parce qu'il faut qu'ils puissent aussi réintégrer la société, participer à l'effort de guerre. Et ça, c'est un point aussi extrêmement important, vous voyez, que le soldat soit utile, même quand il est blessé. Quand il est fou, évidemment, le problème, c'est qu'on ne peut plus rien en faire. Donc, il faut traiter la maladie, la traquer. Et alors, on va la traquer comment? Avec des procédés d'une violence absolument inouïe. C'est-à-dire que les plicaturés, hein, ceux qui sont en quelque sorte catatoniques, on s'efforce de les redresser avec soit des appareils, soit des carcans de plâtre, et puis des méthodes aussi psychologiques assez violentes. Et il y a le fameux processus du torpillage qui permet d'essayer de... bouleverser, si vous voulez, le trouble, de faire exploser en quelque sorte le trouble et de permettre, soi-disant, aux blessés psychiques de retrouver la normalité. Alors tout cela se fait dans des conditions qui sont absolument atroces. Hein. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites. Jean-Pierre Darmon avait fait un article qui avait été très important il y a quelques années, dans lequel il avait dénoncé cette espèce de torture, cette espèce de torture des blessés psychiques de la guerre de 14. Alors, Artaud, vous le voyez, il a certainement côtoyé ces blessés psychiques. Hein. Il a certainement, dans la mesure où il a été réformé, etc., il a connu les les comités de réforme. Donc, il a vu des psychiatres. À l'époque, d'ailleurs, bon, il est suivi par un psychiatre. Donc, alors, il y a toute une énorme expérience qui est, il faut bien le dire, terrible, et qui va ensuite ressurgir, ressortir et revenir. Et c'est ça qui a été très étonnant pour moi, c'est de découvrir toutes ces traces que je n'avais pas vues, hein, il faut bien le dire, parce que je ne connaissais pas la psychiatrie militaire, hein, de l'époque, de la guerre de 14, parce que je ne connaissais mal la guerre de 14, et tout d'un coup, bon, on voit comment ça revient. Alors, il y a un autre problème, et puis ensuite, je crois que je vous rendrai la parole. L'autre grande question, c'est la question de la guerre continuée. La guerre continuée. Alors là, je vais partir tout simplement de la fameuse proposition de Karl von Clausewitz, qui est un stratège et un théoricien militaire du XIXe siècle extrêmement important, et qui disait, si vous voulez, que, en fin de compte, la politique, la guerre, c'était en fin de compte la politique continuée par d'autres moyens. Hein, on fait la guerre parce qu'on est arrivé au bout de la politique, et donc il faut véritablement arriver à quelque chose de violent pour arriver à, aux fins qu'un gouvernement, qu'un État, si vous voulez, s'est fixé. Alors, après la guerre de 14, il va y avoir, ou pendant la guerre de 14, se met en place un processus de modification radicale de ceci, qui est qu'on va aboutir à un processus que Clausewitz va appeler, et Foucault à sa suite, Michel Foucault et d'autres, une guerre continuée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rupture, la paix en réalité, il n'y en a pas véritablement, et on va avoir une société d'une brutalité extrême. La guerre de 14 a été brutale, elle a été extrême, et ceci va perdurer, mais perdurer cette fois-ci dans la société civile et au sein de la société civile. Pas seulement au sein des guerres qui peuvent évidemment se produire, mais c'est la société tout entière qui va être imprégnée de ce qu'on a appelé, de ce que Georges Mauss a appelé, la brutalisation de masse. Bon. Et cette brutalisation de masse, il faut bien dire qu'on est précisément encore et toujours dedans. C'est pour ça que, de ce point de vue-là, l'impact de la guerre de 14 et les lendemains de la guerre de 14 ont été si importants. D'où cette notion de guerre continuée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement de césure et de cassure entre des périodes de guerre suivi de périodes de paix, suivi de nouvelles périodes de guerre, etc. Bon, alors on peut dire que d'une certaine manière, c'était déjà vrai avant. Bon, c'est vrai partiellement. Hein. Il est vrai que la société civile, qu'on n'appelait pas à ce moment-là d'ailleurs de cette manière, mais que la société dans son ensemble conservait des éléments d'ordre, si vous voulez, guerrier. Mais pas au point, si vous voulez, qui a été celui qui s'est instauré après la guerre de 14. Et alors, il y a quelque chose dont je ne vais pas pouvoir parler, mais qui a joué un rôle fondamental dans ce processus, c'est la bioéthique. La bioéthique, la biopolitique, qui est quelque chose qui dépend de l'hygiène mentale. Et l'hygiène mentale, évidemment, ça a fait beaucoup de dégâts jusqu'à, évidemment, au moment où elle est complètement dévoyée. Ça va donner ce qu'on a trouvé dans le fascisme et dans le nazisme. Bon, alors là, je ne vais pas entamer ceci. Voilà, donc la guerre continuée, Artaud, il est dedans. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit tout à fait en 1919, hein, il y a des textes, il explique « La guerre, elle est finie pour tout le monde, mais pour moi, elle n'est pas finie. Et elle ne finira jamais pour lui. » Voilà. Alors, je vous...
Merci pour cette intervention. Je renvoie vraiment le public à l'ouvrage de Florence, qui est absolument passionnant. Je l'ai pressé, par le temps on est pressé, donc elle n'a pas pu dire la moitié de ce qu'elle voulait dire. Vous évoquez aussi la rencontre d'Aragon et de Breton au Val-de-Grâce et toute l'importance qu'a eu cette médecine militaire, c'est-à-dire cette transition du trauma de la guerre à la médecine militaire et à la naissance du surréalisme et de l'art du XXe siècle.
Je vous dis une toute petite chose, parce que Breton, lui, il est de l'autre côté. Il est chez les psychiatres.
Oui, voilà.
Il est étudiant en psychiatrie. Donc c'est intéressant parce qu'après il va se retrouver avec Artaud, mais chacun a été de l'autre côté.
Voilà. Bon, alors j'espère qu'on aura un peu de temps pour en débattre, pour en parler. Je voudrais m'adresser maintenant à Alice Fernet. Bon, dont le roman Dans la guerre m'a ouvert, pour lequel ça m'a ouvert des horizons. Je voulais en lire quelques extraits, et après l'intervention des deux comédiens, je me sens tout à fait déplacé. Donc je vais demander à Caroline, je crois que c'est Caroline, de venir présenter en quelques phrases, c'est très court, ça dure 2 minutes, l'écriture d'Alice Fernet. Donc c'est un roman qui traite de la guerre, mais ce que Alice Fernet appelle le versant silencieux de la guerre. C'est très beau, c'est très juste. Ce n'est pas qu'une histoire d'hommes, ça n'est pas qu'une histoire de front, ça n'est pas qu'une histoire d'horreur et de tranchées. C'est aussi les gens de l'arrière, c'est aussi les femmes, c'est aussi les paysans, c'est aussi les enfants, c'est aussi, y compris un personnage, pas un personnage, mais enfin, un chien, qui est en tous les cas un caractère clé du roman. Et ce que montre Alice Fernet, c'est comment toute la société s'aguerrit. Bon, et c'est autour de ces deux mots qu'on a construit avec nos deux comédiens cette petite introduction.
Alors les femmes restèrent seules sur le versant silencieux de la guerre, non pas sous l'orage d'acier, mais dans le ruissellement des pleurs, loin du pétillement de la bataille, mais dans l'attente anxieuse de ses effets, là où se froisse un visage quand arrive un papier timbré, où une larme se fraye son chemin dans une chevelure jusqu'à l'oreiller. Seule. Félicité se le répéta même à voix haute, 2 fois, ayant besoin de pleurer sur elle-même, après qu'elle eut refermé derrière elle la porte de l'étable pour nourrir les canetons, et justement, être seule. Puisque celui qu'elle voulait était celui qui manquait, elle recherchait et déplorait dans le même temps sa solitude. À quoi bon les autres ? Le monde nous est parfois donné tout entier par un seul être. Elle avait bel et bien perdu le monde. Du moins, c'était ce qu'elle éprouvait à ce moment. Les autres, qui vous regardent, vous interprètent, vous demandent de parler, désapprouvent ce que vous dites, essaient de vous consoler, se lassent de votre mélancolie. Les autres étaient pires que la solitude.
Les pertes en hommes, ainsi que la manière dont avaient été conduites les batailles, firent l'objet de rapports à l'état-major. Joffre éliminait les chefs incompétents. Les débandades devant l'artillerie allemande avaient commencé. La prévôté traquait les fuyards. Le ministère s'apprêtait à rétablir les cours martiales. Des exécutions eurent lieu en catimini. De prétendus espions étaient traînés jusqu'au trépas, la tête dans un sac à pommes de terre. « Quelle pagaille !» pensait Jules. On dirait que l'armée découvre la guerre. Et se disant cela, il ne songeait pas que c'était à peu près exact. Car les Allemands avaient inventé une nouvelle façon de combattre qui couchait dans les champs le clairon et les baïonnettes françaises avant même l'entrée des villages dont ils sonnaient l'assaut. En cette journée du 21 août où priaient Julia et Félicité, on finissait de compter 150 000 morts dans les offensives de l'Enraine. Bien sûr, toutes ces dames l'ignoraient. Et d'ailleurs, elles priaient pour que repose auprès de Dieu l'âme du pape. Pidis était mort la veille. C'était un mauvais signe, avait assuré Julia en se signant 2 fois. Le régiment de Jules ne comptait plus que 800 hommes sur les 1500 qui le composaient. En quelques heures, les mitrailleuses allemandes et les obus de 105 avait percé, labouré, déchiqueté une première vague de jeunesse ardente. Un grand changement s'était produit en Jules. Il était devenu un soldat. Cela s'était fait en 2 semaines. Il s'était configuré pour la guerre. Il y a un mot pour dire cela. Jules s'était aguerri.
Alors, je vous laisse la parole, Alice Fernet. Sur cette question du roman, on parlait tout à l'heure de la poésie avec Artaud. Donc, comment passe-t-on de cette catastrophe, qui est la guerre, à la mémoire et aux romans?
Oui, alors je vais rebondir sur ce que vous avez dit. D'une certaine façon, j'aime bien que les débats soient, enfin que ça soit sur le vif. Donc j'ai en fait rien préparé, juste essayer de me rappeler, parce que pour moi c'est un livre que j'ai écrit et que j'ai commencé en 99. Donc ça fait déjà longtemps. Et je me suis dit que peut-être ce qui intéressait les gens, ce serait de savoir comment on arrivait finalement, en étant une femme née en 1961, à écrire un roman sur la guerre de 14. Et vous me donnez un peu l'occasion justement d'y réfléchir en séparant justement ceux qui ont écrit dans la guerre ou sortant de la guerre et puis ceux qui ont écrit après la guerre. Une chose peut-être qui serait intéressante à rappeler, c'est que... les grands romans de guerre, et même la littérature, s'est presque construite sur cette posture qui consiste à raconter ce qu'ont fait les autres, c'est-à-dire précisément à raconter après ce que d'autres ont fait avant. Il faut se rappeler que Homère écrit des guerres qu'il n'a ni vues ni vécues. Quand Tolstoï écrit « Guerre et paix », il écrit en 1870 les guerres de 1812, lui-même étant né en 1805. Et d'ailleurs, pour le faire, il se constitue toute une bibliothèque. Je pense à un autre beau roman que j'ai lu cet été, qui est un roman d'un Canadien qui raconte la bataille d'Ypres, qui s'appelle « Guerre ». Et l'écrivain est né en 1930. Il raconte donc la guerre de 14 et il écrit le roman en 1970. Donc moi, je me suis trouvée exactement dans cette perspective-là. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a confortée dans l'idée que c'était possible, qu'on pouvait écrire sans être justement un témoin. Parce que d'une certaine façon, c'est la posture du romancier qui n'est pas celle du... la littérature n'est pas le témoignage. Alors c'est vrai que des livres comme Le Grand Troupeau, tous les romans de Genevoix sont à la fois des livres de témoins et des livres de romanciers, mais... A priori, justement, celui qui écrit la guerre comme romancier ne l'a pas forcément vécu. D'ailleurs, je dois dire qu'à l'époque où j'ai fait le livre, c'était aussi parce que dans les années 2000, il y avait une telle présence de l'autofiction dans la littérature française que dès qu'on écrivait un roman, on était tout de suite, pas suspecté, mais tout de suite, le lecteur pensait qu'on racontait ce qu'on avait vécu. Or, moi, justement, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la posture de l'auteur, du romancier qui parle de ce que les autres ont fait. Et donc, ça m'agaçait un peu. Et je me suis dit, à l'époque où j'ai eu l'idée, si j'écris ça, on ne dira pas que je l'ai fait, la guerre. Cela dit, du coup, en fait, les critiques qui ne voulaient pas lire ont dit « elle ne peut pas la raconter ». C'était ça. Mais moi, à l'époque, j'étais persuadée que si on lisait mon livre sans dire que c'était moi qui l'avais écrit... les gens sauraient ni que c'était une femme et ni que ça s'était écrit en 2000. Mais l'expérience n'a évidemment pas été faite. Et donc ça, pour rappeler quand même la posture de la littérature qui fait exactement ça. Je me rappelle aussi, parce que ça peut être intéressant, comment l'idée m'est venue. Elle m'est venue à l'occasion d'une découverte. J'ai regardé un film qui était la version cinématographique, la version documentaire d'un livre extraordinaire d'un journaliste qui s'appelle Martin Monestier et qui est « Les animaux dans la guerre ». Et en fait, à l'occasion de ce film, ce documentaire, j'ai découvert qu'on avait toujours enrôlé les animaux dans les guerres et depuis l'Antiquité, puisqu'à l'Antiquité, il y avait des régiments de chiens et que ça a duré d'ailleurs jusqu'à l'invention des armes à feu, puisque là, les chiens ne pouvaient plus combattre contre les armes à feu. Et puis du coup, ça a été vraiment comme une découverte, une fenêtre qui s'ouvrait. J'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que cette espèce de mélange de l'animalité de l'homme, justement, comme disait tout à l'heure Marc Crépon, la victoire de ce qu'on appelle la barbarie, mais la victoire de l'inhumanité, et qui en plus allait chercher l'animalité au sens propre pour l'amener jusque dans son propre conflit et ses combats. Je trouvais que c'était un sujet extraordinaire. Donc, quand j'ai regardé ce documentaire, je me suis dit, tiens, est-ce que quelqu'un a écrit, et je ne connaissais pas le texte de Colette qui a été lu, mais est-ce que quelqu'un a écrit sur ça? Et je me suis aperçue qu'à part Martin Monestier qui avait fait un travail de journaliste, il n'y avait pas de roman là-dessus. J'ai trouvé que c'était un sujet de roman. Et je n'ai pas tout de suite choisi d'ailleurs d'écrire sur 14 parce que les animaux ont participé à beaucoup de guerres. Les premiers chiens sanitaires sont nés avec la Croix-Rouge et le colonel Chabert en est une des raisons. Et donc j'ai vu qu'en Algérie, il y avait eu des chiens de guerre. En Indochine, il y en a eu. Il y en a eu au moment de la guerre de 40, mais c'était principalement les bergers allemands parce que beaucoup des chiens de guerre ont été fabriqués par les Allemands. Et finalement, j'ai choisi d'écrire l'histoire d'un chien dans la guerre de 14 parce que, en regardant toute la littérature de 14 et en la lisant, ça m'a tellement bouleversée que j'ai eu envie de faire le roman de l'animalité dans la guerre en 14. Ce que je voudrais dire, juste pour pas justement être longue et que vous puissiez même poser vos questions, c'est que après, comment est-ce qu'on fait quand on vit en 1999 et qu'on veut écrire le roman d'un chien dans la guerre de 14, d'un chien sanitaire en l'occurrence, et ben simplement, en fait, on revit la guerre de 14. Et le fait de pouvoir l'écrire veut dire deux choses. La première, c'est que écrire, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent imaginer, n'est pas tant exprimer quelque chose que l'on connaît déjà que explorer pour l'écrire quelque chose que l'on ne connaît pas. Et donc, c'est ce que j'ai fait en écrivant dans la guerre. C'est-à-dire que j'ai mis exactement 4 années entières de travail pour l'écrire, dont une année qui est une année uniquement de lecture de tous les romans que j'ai pu trouver et bien sûr de tous les livres d'histoire sur la guerre de 14 pour connaître l'objet sur lequel je voulais écrire. Ça, c'est déjà simplement se faire revivre l'émotion. C'est-à-dire, par exemple, vous avez parlé de Céline. On ne peut pas lire Céline sans être complètement bouleversé. Quand on lit Genevoix, on a une connaissance de la guerre. Quand on lit Giono, on voit effectivement ce que la guerre a détruit. Donc j'ai fait cette expérience finalement de la lecture. Et puis ensuite, dans la documentation que j'avais acquise et portée justement par cette émotion, j'ai construit mon livre aussi, le mien, mon histoire avec ce personnage de chien, et puis évidemment autour du chien, puisque j'avais fait le choix de ne pas l'anthropomorphiser, donc ni de le faire parler, ni de le faire être autre qu'un chien. J'ai construit autour des personnages qui permettaient de montrer tout ce que les animaux ont fait pendant cette guerre de 14. Et en écrivant ça, d'une certaine façon, j'ai fait passer toute cette expérience extérieure à l'intérieur de moi, ce qui fait que d'une certaine façon, effectivement, pendant 3 ans, j'ai presque vécu la guerre. Ça paraît aberrant de le dire, mais c'est réel. C'est-à-dire que tout ça, bon, évidemment, en voyant des documents, mais je me souviens, par exemple, je me souviens de choses que j'ai lues, quand vous parlez de la guerre qui se continue, de la folie, je me souviens d'une phrase de Capitaine Conan, où un des personnages dit « Construisez des prisons, des asiles et des hôpitaux, parce que ce que vous aurez, c'est une société de fous et d'alcooliques. » Et c'est vrai. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, les romans, bien sûr, on les lit. Et si vous voulez, l'intérêt, je trouve, du roman, c'est que, alors bien sûr, il y en a beaucoup de beaux, et inutile de dire que j'ai constamment douté sur le fait que c'était intéressant de rajouter un roman. Et les deux choses, je me souviens, qui m'ont portée, c'est justement le fait que personne n'avait écrit sur les animaux et le fait qu'aucune femme n'avait écrit un roman sur 14. Et c'est pour ça que vous parlez du versant silencieux. Je pense que j'ai aussi parlé des femmes. Alors, il y a un des écrivains de 14 qui a parlé des femmes, c'est Genevoix. Alors, dans ceux de 14, dans l'édition de tous ses romans sur 14, un des romans parle de l'histoire d'une femme qui n'est pas capable d'attendre son mari et qui le trompe. Je ne sais plus lequel c'est. C'est le seul roman où j'ai vraiment vu quelqu'un parler des femmes. Giono parle de l'arrière quand même beaucoup. Mais sinon, c'est vrai que les romans de 14 sont des romans de guerre. Donc moi, je me suis dit, voilà, si j'ai quelque chose à apporter, c'est, bon, d'écrire sur les animaux, puisque, à part Giono, mais il n'a pas écrit sur les animaux qui ont fait la guerre. Ça, je peux le faire. Et puis, parler peut-être des femmes en essayant, comme le fait un romancier, par empathie, de me mettre à la place des femmes qui attendent, qui n'agissent pas, et qui donc vivent la guerre d'une autre façon. Et puis c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup, puisque moi-même j'ai fait ma thèse d'économie sur le travail des femmes, et on a souvent fait de la guerre de 14 le moment où les Françaises ont commencé à travailler, donc ça je trouvais ça intéressant. Et puis ça m'a fait découvrir, alors vraiment à l'époque, et penser quelque chose que j'avais jamais pensé, qui était que la guerre était socialement le principal moment de séparation absolue des sexes. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et effectivement, c'est très, du coup, senti dans mon livre. Et qu'est-ce que le roman apporte par rapport à, par exemple, au travail de Marc Crépon ? C'est que ce que Marc Crépon dit d'une façon intellectuelle, conceptuelle, le romancier, lui, le fait ressentir. Et ça, c'est toujours effectivement intéressant, parce que d'une certaine façon, quelqu'un qui écrit la guerre de 14 aujourd'hui va faire ressentir, sans même s'en rendre compte, ce que le patriotisme peut avoir d'effectivement hallucinant et de malsain et de catastrophique, alors que en 14, évidemment, on l'aurait pas écrit. Donc je trouvais, finalement, je me dis que c'était quand même intéressant. Et en tout cas, les gens n'imaginent pas qu'on écrit des romans en premier, parce que les écrire nous transforme nous-mêmes. Et donc moi, bien sûr, ça a été pour moi une expérience très intéressante.
Donc, merci. Donc là, on a une belle réponse à la question qu'on se posait, tout ce qu'on s'est posé, c'est-à-dire quel nous fabrique la guerre, hein, qu'est-ce que ça nous fait aujourd'hui, en quoi ça nous change, en quoi ça nourrit les problématiques qui sont les nôtres dans notre vie quotidienne, et en quoi ces problématiques viennent aussi d'un passé lointain, qui n'est pas si passé que ça d'ailleurs, à bien des égards. Donc on a vu avec Florence l'aspect, donc les participants à la guerre, l'effet immédiat du traumatisme sur la créativité. On vient d'avoir là un autre éclairage sur ce que le temps a fait à l'affaire, c'est-à-dire comment on tient compte de ce temps historique pour créer et pour revivre, disait Alice Fernet, cette expérience. Je voudrais conclure avec Pierre Buraglio, qui est peintre, lui, qui n'est pas écrivain. Et donc c'est peut-être un choix partisan de ma part, puisque je suis moi-même peintre. Alors, j'ai voulu... Alors, est-ce qu'on a les images, là ? Je voulais... Non. Voilà, on voulait commencer avec M. Buraglio sur cette image. D'abord, cette image, elle a une petite histoire. C'est que je voulais m'en servir pour faire la couverture d'un livre sur Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Et puis finalement, bon, pour X raisons, ça ne s'est pas fait. D'abord, on n'a pas fait le livre, donc c'était assez simple. Mais je ne sais pas... Non, voilà, c'est une... Très jolie image, c'est une peinture qui est à la fois très simple, très parlante. On a un casque allemand dans la partie supérieure qui a la... On voit écrit Karl à l'envers, et puis là, la partie, le casque français, il y a écrit Rosa. Bon, voilà, donc j'aime beaucoup ces deux personnages pour X raisons. Donc je vous avais même rencontré un jour à la galerie Fournier, et puis on en avait parlé, je crois, oui, comme ça, de façon très informelle. On avait parlé de Liebknecht, et puis bon. Alors, ce que je voudrais, c'est que vous nous parliez, vous, maintenant, de ce qu'est la guerre pour un peintre. Philippe Dagen a écrit un livre qui s'appelle « Le silence des peintres », et il a évoqué cette tétanisation des peintres et des sculpteurs face à cette horreur. Et au moment de l'événement, et aujourd'hui pour vous, comment finalement parvenez-vous à trouver du pittoresque ? Hein, le pittoresque, c'est ce qui est digne d'être peint, oui, dans une situation comme ce conflit.
Étymologiquement, oui, c'est ça. Non, les conditions sont particulières. J'ai été invité il y a 2 ans par par l'historial de Perron, l'historial de la Grande Guerre de Perron, a travaillé à partir des collections, donc les uniformes, les armes d'une part, et d'autre part, des centaines et des centaines de peintures et de dessins réalisés par des professionnels, entre guillemets, des amateurs, certaines ressortissant davantage de la propagande, d'autres du témoignage. Alors, j'étais pris de court d'une certaine façon, et c'était la première fois que j'allais traiter dans ma vie, j'allais traiter directement ce thème. Alors, j'ai évidemment pris un parti pris, et tout à l'heure, dans un dialogue très, très courtois, mais on a opposé la question des idées reçues. Les idées reçues des uns ne sont pas les idées reçues des autres. Alors, il est évident que moi, mon parti pris, il est nourri, le substratum dans mon exposition, de celle qui s'est ouverte il y a deux jours à Louviers, qui en est comme la continuité. Il y a le parti pris est simple, c'est que je pense que à la suite de lecture, à la suite d'un travail au cours des années, je pense que cette guerre est une guerre, si vous voulez, tout à fait, comment dire, pour faire court, interimpérialiste. Voilà, c'est-à-dire, c'est des États qui doivent nécessairement, pour continuer d'exister, faire marcher la machine, avoir recours à la guerre. Et que les Allemands, les Autrichiens, les Russes, les Anglais, les Français sont engagés malgré eux dans les populations, les hommes en particulier, mais les femmes aussi, comme ça vient d'être dit. J'ouvre une parenthèse, il y a une historienne, Annette Becker, qui a préfacé mon livre et qui a travaillé sur les départements occupés et par conséquent des femmes desquelles on a pu abuser, etc. Bon, bref. Alors ce qui m'a amené, parce qu'il faut trouver des résolutions plastiques, c'est qui m'a amené à cette espèce de pictographie extrêmement simple de casque allemand, de casque français, de les mettre sur le même plan et d'introduire des lettres. Je ne suis pas le premier à introduire les lettres dans la peinture, c'est évidemment dès le cubisme, des années 12, 13, on a ça. Et Rosa, comme Rosa Luxembourg, et K, comme Karl Liebknecht, et dans d'autres travaux, nous avons un Gigi, qui est évidemment Jean Jaurès, assassiné le 31 juillet 1914. Voilà. Alors, plus jeune, je n'aurais jamais osé faire un tel travail, parce que je ne me serais pas senti autorisé. Mais peut-être que l'expérience de la vie, etc., fait que je me suis lancé. Et donc, j'ai dû prendre non seulement un parti pris idéologique, mais un parti pris plastique, à savoir, plutôt que je ne l'ai pas peindre des grandes fresques, devenir un peintre d'histoire que je n'étais pas et que je ne serai jamais, mais me saisir des objets, me saisir des objets, des vêtements, des armes, etc., que j'ai pu observer et à partir desquels j'ai pu dessiner à l'historial de Perron. Alors, cette image, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, une croix rouge. Alors la croix rouge, elle n'est pas tout à fait, vous pourrez remarquer, elle n'est pas tout à fait symétrique parce que évidemment il y a un discours subliminal. C'est en même temps la croix de Malevitch. Alors elle est un peu de guingouin. Et alors cette série, ben, cette suite, disons, un calot, un couteau, des pommes de terre. Je ne vais pas tout décrire. La suite intitulée Rêve de soldat. Les titres, on les a un peu pensés avec Annette Becker. Et disons que cette suite s'oppose à d'autres œuvres, d'autres travaux. Nous sommes dans une situation, nous sommes à l'arrière, il y a un certain repos, etc. On peut peut-être passer d'autres images. Alors, là, c'est pour moi un des dessins dont je suis le plus satisfait, et qui m'a... Alors, grande émotion, c'était évidemment les capotes et la fameuse capote de Poiret. Alors, Poiret, comme chacun sait, un grand couturier, et la capote des soldats est fort bien conçue, avec des revers, avec 36 poches, etc. Mais enfin, vous pouvez mesurer à quel point nous sommes... Le cynisme de la situation, parce que les femmes... à 40 km du front, qui portent les robes de Poiret et qui dansent dans les bals des états-majors, eh bien, il y a aussi la capote de Poiret, des ouvriers, des paysans qui sont dans le sang, la merde, la boue, etc. Alors, comment ai-je procédé? J'ai tout simplement fait des relevés de cette capote et puis je les ai retravaillés un peu. J'ai retravaillé à l'atelier. J'ai pas essayé de... Je me protège toujours du pathos inutile, mais je crois que c'est assez... ça suggère. On peut parler du matériau? Ah oui, on peut pas... Ah oui, non, ah oui, non, mais Camille, vous avez tout à fait raison, parce qu'à chaque fois, il y a... Oui, bah ça, c'est une... Évidemment, on peut pas... Ce ne sont pas des images, reposent sur un support, et ce support, il réagit. Et il est une espèce de la forme, dit le fond, qui l'a dit. Bon. Alors là, les casques français et allemands, on pourrait y ajouter l'espèce de casque toujours moyenâgeux des Tomis de l'armée britannique et puis d'autres casques encore. Mais là, c'est sur une sorte de carton et j'ai fait sentir là. Ce sont des relevés, tout simplement, des relevés de ces casques. Et j'essaie de faire sentir un peu la matière. En revanche, oui, allez-y. En revanche, vous avez tout à fait raison d'opposer à cette suite. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de... vous avez utilisé le prénom de l'époque qui revient à la mode, ma foi, Jules. En revanche, Edmond, je crois, toujours un petit peu suranné. Et alors, j'ai une suite intitulée Edmond, une affaire de famille, un pauvre jeune homme qui va mourir atrocement entre les lignes allemandes et les lignes françaises. Et là, qu'est-ce que c'est que le travail très simple, mais de relever de ce qui peut... d'intituler une autre exposition le parti pris des restes, un peu en jouant sur le parti pris des choses de Ponche. Et vous avez, Camille, vous avez raison de m'interroger sur la matière, parce que ce sont des papiers de soie, et ces superpositions, peut-être, j'espère, insiste, donnent à voir, à percevoir et à sentir, ce qui est notre écrivain ou peintre, ce qui est notre domaine. Et cette situation de ce qui peut être resté sur le sol, comme ce soldat lui-même, sur la terre, la boue, entre les lignes. Alors là, évidemment, je triche un peu par rapport au sujet, parce que 1914-1924, et là, il s'agit de 1940. Alors, je suis né en 1939, mon père part à la guerre, il reviendra 4 ans et demi après. Alors, sans ne pas tomber dans la racontouse, comme dit Queneau, je crois que c'est de Queneau, cette expression. Non, mais une des lectures qui m'aura le plus, apprise, c'est L'étrange défaite de Marc Bloch. Je voulais quand même vraiment comprendre pourquoi nous avions été vaincus alors que l'armée était puissante, etc. On peut se reporter à Général de Gaulle, une lecture a été faite tout à l'heure. Et pour Marc Bloch, qui n'a pas d'a priori idéologique, qui est un homme très modéré, un savant médiéviste, mais son expérience d'officier d'état-major lui fait conclure, premièrement, imbécilité de l'état-major, et beaucoup plus grave, finalement, trahison. Alors, cette espèce de soldat là, schématique, là, c'est à l'intérieur d'un album un album intitulé J1. J1, c'est la carte d'alimentation des enfants en bas âge, donc ce que je fus. Voilà, alors ce soldat comme pouvait être mon père. Marc Bloch, L'étrange défaite. Oui.
Bon, ça clôt la question de la guerre continuée aussi. Enfin, si on peut clore justement une guerre qui continue, comme
Non, c'était par curiosité. Ah,
oui. Il faut terminer sur la cocarde du mouvement Spartacus.
Alors, le temps nous est compté. Il nous reste quelques minutes pour débattre et répondre aux questions, si questions il y a.
Oui, est-ce que vous parliez des chiens que l'on envoyait à la guerre? Est-ce que vous avez vu ce documentaire où l'on avait envoyé des personnes dans le nord du Canada pour chercher des chiens de traîneau pour la guerre de 14-18?
Mais justement, c'est à moi que vous posez la question. Oui, le livre de Timothy Findlay en parle. Parce que justement, c'est un des. Enfin, d'ailleurs, j'ai du coup découvert, je ne sais plus quand, l'autre jour, qu'on a quand même, nous, en France, mobilisé 2 millions de chevaux. Et que 850 000 sont morts. Bon, c'est vrai qu'il y a des scènes de la littérature, je pense à la scène de Malaparte avec les chevaux dans le lac glacé, ou des photos extraordinaires de carcasses de chevaux dans les arbres. Et effectivement, les chevaux de traîneau, je l'ai appris, mais je vois de quel documentaire vous parlez, oui. C'est sûr qu'on est, de toute façon, on est très, très étonnés de découvrir, effectivement... le fait que les animaux souffrent aussi beaucoup dans la guerre, c'est sûr.
Excusez-moi, c'est une question de curiosité. Madame de Merdieu a dit qu'elle ne connaissait pas la psychiatrie de guerre, mais vous n'avez pas dit quel était votre rapport à la psychiatrie, si vous en aviez un ou pas.
Oui, alors je ne connaissais pas la psychiatrie de la guerre de 14 avant d'avoir travaillé pendant deux ans sur la psychiatrie. Maintenant, je ne dirais pas que je la connais à fond, mais enfin, je connais un peu. Le rapport à la psychiatrie, ben, c'est-à-dire que ça fait des années et des années que, en particulier pour Antonin Artaud, je travaille beaucoup sur la psychiatrie de manière générale. Voilà. Donc j'ai quand même une assez solide formation au niveau de la psychiatrie. Mais la psychiatrie de guerre, c'est quelque chose de tout à fait particulier, en particulier pendant la guerre de 14-18. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était international. Hein, vous aviez la même chose, par exemple en Allemagne, en Angleterre, Freud en a parlé, enfin, etc. Enfin, c'est très intéressant de ce point de vue-là.
On sait en général que la guerre, ça symbolise la souffrance, la douleur. Est-ce que les artistes, pendant cette période, pendant cette période de guerre, est-ce qu'ils ont été plus, est-ce qu'il y a eu un élan créatif plus important, que ce soit les peintres ou les écrivains?
Est-ce qu'il y a eu une création importante, c'est ça? Plus importante. Alors, je peux dire un mot et puis je donne Donc, il y a de nombreux ouvrages qui ont été écrits sur le rapport de l'art à la guerre. Donc, je parlais tout à l'heure du livre de Philippe Dagen qui traite de la question et qui s'intitule « Le silence des peintres ». Le titre lui-même éclaire le contenu, très intéressant. On peut aussi voir un peu différemment, Pierre Buraglio a évoqué la quantité de dessins qui n'ont pas forcément été explorés, exploités, analysés, considérés et qui se trouvent dans les archives et dans les fonds. On en a montré aussi quelques-unes qui étaient de l'ordre de l'illustration, moins de la création. Tout à l'heure, il y avait ces dessins d'enfants, mais toute production liée à la publicité, à la propagande qui est importante. Je veux dire que par ailleurs, il n'y a pas d'événement historique qui est dans l'histoire qui a suscité une telle profusion d'œuvres, ne serait-ce que par les monuments aux morts. Il n'y a pas de village en France qui n'a pas un monument aux morts. Donc, si vous voulez, même si c'est un petit peu postérieur, c'est immédiatement après la guerre, voire même parfois pendant la guerre, on voit des dizaines de milliers d'œuvres. Alors, on peut ne pas en apprécier l'esthétique, la trouver complètement pompier, décalé, mais ils existent. Après, revient aux esthéticiens, aux historiens d'art de discuter de leur intérêt. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de guerre, de conflit, d'événements historiques qui aient suscité une telle profusion de création. Il faut voir que les écoles d'art, les Beaux-Arts en particulier, ont formé pendant des années des artistes qui ont gagné fort bien leur vie d'ailleurs en sculptant, en fondant ces milliers et ces milliers de monuments.
Alors, oui, pardon. Peut-être, en ce qui concerne la guerre, je crois que, en particulier la guerre de 14, bon, je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a les œuvres des artistes professionnels, ce qui était, enfin bon, je mets ça entre guillemets, hein, mais enfin disons des artistes, qui ont continué dans la mesure où ils le pouvaient, parce que souvent ils étaient appelés sur le front, etc., et certains sont morts, etc. Je pense par exemple, on pourrait citer Grose en Allemagne, hein, qui a fait une œuvre quand même très étonnante. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler un art populaire fait par les soldats eux-mêmes. L'exposition 1917 avait montré en particulier les objets fabriqués à partir des obus, etc., les douilles, enfin tous ces objets. Donc, un art populaire très important. Et on a la même chose, je crois, aussi sur le plan de la littérature. C'est-à-dire, on pourrait citer Apollinaire, hein, on sait qu'il est mort tout à fait à la fin de la guerre de la grippe espagnole, après avoir été trépané, qui a continué lui aussi à faire de la poésie, hein, de la littérature et de la poésie pendant la guerre. Et puis il y a les journaux de Poilu, dans lesquels il y a des ritournelles, des chansons, des poèmes faits par des soldats. Et parmi ceux-ci, d'ailleurs, il y en a un d'Antonin Artaud, hein, en 1918, La petite maison jaune, etc. Un poème de Poilu.
Ça fait 100 ans qu'on écrit sur la guerre de 14, puisque encore l'année dernière, Jean Echenoz, qui a écrit un livre qui s'appelle 14, quand on s'intéresse au sujet, on s'aperçoit que ça... Oui, là encore cette année, le Goncourt, c'était sur ce conflit, donc ça n'arrête pas, oui.
Je voulais simplement ajouter des noms comme Autodix, chez les Allemands, Autodix et Max Beckmann, ils font la guerre, ils sont complètement impliqués. Et ils vont développer une œuvre considérable. Alors d'autres artistes très célèbres comme Fernand Léger dessinent beaucoup. D'autres vont être enrôlés dans la section de camouflage. Et ça c'est très intéressant, mais ça serait un autre sujet. Et ils le sont enrôlés par un peintre académique qui dirige la section, je cherche le mot exact, enfin bref, et qui dépend de l'état-major, bien sûr, parce qu'il les méprise d'une certaine façon comme artiste, mais il a pigé, il a repéré qu'ils étaient bons pour copier, pour faire du faux marbre ou de faux bois. Par conséquent, ils seront bons pour faire de fausses prairies ou de fausses forêts. Et on trouve là, dans le camouflage, énormément d'excellents artistes, dont Braque, qui sera trépané par ailleurs.
Mais on peut pas non plus, régler la question si on ignore qu'avant la guerre, et c'est pourquoi dans les lectures qu'on fait tout à l'heure, les deux comédiens, il y avait un petit passage de Marinetti qui était très bref et particulièrement abominable. Il faut voir que la modernité, avec le futurisme, multiplie avec les déclarations bellicistes, guerrières, d'une extrême violence, d'un extrême patriotisme. Je veux dire, cette modernité qu'on associe en règle générale au progrès, à un esprit ouvert, démocrate, bienveillant, humaniste, elle naît avec des déclarations avant la Première Guerre mondiale, d'une incroyable violence, d'une incroyable... Alors, avec évidemment l'envie de choquer et de brutaliser un petit peu les consciences, mais les mots demeurent, quand on les écoute, les odes à la mitrailleuse, les chants pour les Schnarpnell sont multiples dans la littérature, y compris dadaïstes d'ailleurs, hein, et pas seulement les futuristes, hein, et les futuristes russes comme les futuristes italiens. Donc il y a les deux, c'est ambivalent. Hein.
Et après la guerre, ça va être repris dans les mouvements d'avant-garde, en particulier par Breton et le surréalisme, qui auront vraiment, il y aura un aspect tout à fait guerrier dans le mouvement, même si évidemment ce sont des guerres de pacotille. Mais il faut voir quand même ces guerres de pacotille ont toujours inquiété les gouvernements.
Hein, il y avait, par exemple, quand Artaud a été au Mexique, il était surveillé, politiquement surveillé, quand il a été en Irlande aussi. Donc, quand même, on se méfiait de ces anarchistes un petit peu bizarres.
On va peut-être clore la soirée. Merci Camille et merci aux trois intervenants. Merci d'avoir veillé si tard, à la fois pour les intervenants et pour le public. J'espère que voilà, vous avez appris beaucoup de choses et que ça a été une soirée intéressante. Je me permets de rappeler aussi que les deux débats ont été archivés, donc vous pourrez les consulter à partir de la semaine prochaine sur le site web de la BPI. Et puis qu'on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une prochaine session du cycle Lire le Monde dont je vous parlais tout à l'heure en introduction. Il sera sur un thème assez différent, sur le concept de blanchité et de discrimination. Il y a eu plusieurs ouvrages qui sont parus ces derniers mois sur ce concept. Et voilà, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.